France Inter. Interclasse.
Être blanc, bah, c'est un idéal de beauté. Pendant longtemps, dans la société, dans les médias, on voyait que des personnes blanches qui s'exprimaient. On a toujours vu des personnes blanches. Donc je pense que, au fond de nous, bah, on a envie de devenir comme eux.
France Inter. Interclasse. Collège Georges Rouault à Paris.
Tout commence ici, au collège Georges Rouault, dans le 19e arrondissement. C'est là que les élèves passent la plupart de leur temps, entre les longs couloirs jaunes et les salles de classe. C'est aussi ici que nous rencontrons nos guides du jour.
Bonjour, moi mon prénom c'est Rami.
Bonjour, moi c'est Zindine, on m'appelle aussi Zézou dans le collège.
Quand on lui demande son endroit préféré dans le quartier, Zindine n'hésite pas longtemps.
Le gymnase, parce que c'est un peu l'endroit où les embrouilles entre quartiers, elles s'arrêtent. On se met ensemble et on fait nos matchs, qu'importe de là où on vient, on joue quand même. Et on est dans la bonne entente.
Ce gymnase se trouve au coin de la rue, des terrains extérieurs, une salle à l'intérieur. Ici, des éducateurs de l'association Essé se relaient tous les jours. Parmi eux, Wally Silla, 31 ans. Pour lui, ce gymnase, c'est un lieu à part.
C'est une bulle parce que ça permet de sortir du quartier pendant un temps. Donc ils savent que quand ils viennent ici, tous les problèmes qu'il y a à l'extérieur, il n'y en a plus. Parfois même, il y a des conflits qui ont été réglés ici.
Grand basketteur à la barbe impeccable, Wally Silla est un enfant du 19e. C'est là qu'il a grandi. Ce gymnase, il le fréquentait enfant. Et maintenant, c'est à son tour de s'occuper des plus jeunes.
C'est un endroit où vraiment, pendant un moment, donc ils vont être encadrés. Et pendant ce temps-là, donc, il y a des règles à respecter. Ils en ont besoin parce que toute la journée dehors, ils sont pas encadrés. Donc c'est là que ça, les bêtises elles peuvent commencer ou autre.
Le 19e des collégiens, c'est aussi un autre lieu.
C'est Rami. Moi, je vais très souvent, c'est... au parc du but du Chapeau Rouge. Quand il y a la sécurité, à 18h qu'ils viennent, et ben, des fois on court parce qu'on a envie de rester un peu et on se cache pour pouvoir rester. Comme ça, on peut admirer le coucher du soleil.
Pour rejoindre le parc, il faut longer la ligne de tram. On y trouve Yolande. Assise sur un banc, elle profite de l'après-midi pour bouquiner. 15 ans qu'elle vit ici et elle aime toujours cette aire de nature, lovée contre le périphérique.
Il y a plein d'arbres qui font comme une voûte. C'est très joli. Je ne sais pas ce que c'est ces arbres d'ailleurs. Ce sont des marronniers, non, des tilleuls. Il y a certains arbres que je suis.
En dehors du parc et du gymnase, pour décrire le 19e, les ados disent rixe, violence policière et trafic de stupéfiants. Mais ils parlent aussi de la fierté d'habiter ici.
Il y a beaucoup de rappeurs en fait aussi qui se sont lancés récemment dans le rap. Et donc voilà, aussi il y a aussi d'anciens comme...
Il y a MHD aussi.
MHD, oui.
J'ai pas toujours été ça, je voulais ressembler au grand chez moi. Maman m'appelle, je répondais pas quand t'aimes les CD.
C'est Zizou. Alors, je tenais à rajouter quelque chose. On critique beaucoup les jeunes de cité, mais lorsqu'il y a eu une mère de famille en difficulté, ces jeunes-là, ils sont prêts à l'aider, à porter ses sacs. Il y a beaucoup de solidarité, hein.
Une solidarité dont les élèves sont fiers. Si on leur pose la question, plusieurs l'affirment. Ils préfèrent habiter ici plutôt qu'ailleurs.
Zizou et Rami, nos guides, ce sont vos guides aussi dans ce quartier du 19e arrondissement. C'est un reportage signé Mathilde Ansker. Alors Mathilde, qui était aux côtés de France Inter cette année encore pour Interclasse avec les élèves de 3e du collège Georges Rouault. Georges Rouault, c'est une équipe pédagogique hors norme menée par Elena Pavel. Alors elle n'est pas là aujourd'hui, mais on l'embrasse tout particulièrement. Et Laurence Grammard, des profs comme on aurait adoré en avoir, n'est-ce pas Antoine?
Oui.
Antoine Chao, bonjour. Producteur, journaliste à France Inter, on vous retrouvera avec un immense plaisir en septembre. Et Antoine, vous étiez aussi de cette aventure interclasse à Georges Rouault.
Oui, alors on a créé plusieurs groupes de travail, donc de réfléchir sur des thèmes qui vous passionnaient, vous les élèves de ce collège du 10e arrondissement. Et on va commencer par un sujet que vous avez choisi donc vous-même, qui est un sujet sur les youtubeurs. Alors autour de la table, Maxime, Awa, Abdelaziz, Roman, Nicolas et Wendy.
YouTube, c'est un média qui nous impacte un peu. On l'utilise quasiment tous les jours.
Maintenant, au lieu de passer par des journaux tels que Le Parisien, on va directement sur YouTube, ça va plus vite.
On a voulu enquêter sur les YouTubeurs et donc on a directement contacté Vincent Manilève, qui est auteur d'un livre sur les YouTubeurs. Et on lui a posé notre question, qui était notre problématique. Est-ce que YouTube est le nouveau média des jeunes ?
Pour moi, ça l'est déjà depuis pas mal de temps, dans le sens où les jeunes vont, par exemple, typiquement beaucoup moins sur le moteur de recherche de Google que sur YouTube. Il y en a beaucoup qui s'informent directement sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui consomment plus de vidéos, même des vidéos qui viennent de la télé mais qui sont sur YouTube, ils vont les consommer sur YouTube et pas à la télé. Et sur le contenu en lui-même, bah, maintenant, il y a un peu de tout ce qu'on peut imaginer. Avant, c'était beaucoup jeux vidéo, beauté, humour. Aujourd'hui, il y en a qui mélangent un peu tout. On va voir Léna Situation faire une vidéo sur les Sims. On va voir McFly et Carlito parler de télé-réalité. Même si ça reste très formaté, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut sur YouTube quand même.
Est-ce que les YouTubeurs, pour marcher, il y a des points communs ?
Pour marcher, il y a un truc qui est assez essentiel, c'est incarner sa vidéo. Il y en a certains qui se montrent pas à la caméra, mais il y en a de plus en plus qui le font. Le roi des rats, typiquement, pendant longtemps, il se montrait pas face caméra, mais aujourd'hui, il le fait. Et je dirais donc déjà qu'il faut pouvoir incarner, être identifié, parce que ça crée une proximité avec les gens. On a l'impression de les connaître. Ils regardent dans la caméra, donc ils nous regardent, donc ils nous parlent à nous. Après, il y a pour marcher, il faut souvent que les montages soient assez cut, comme on dit, c'est-à-dire avec beaucoup d'effets de zoom pour accélérer un petit peu le rythme. Par exemple, à la différence d'un podcast ou d'une émission de radio où les gens parlent assez posément, et ben dans une vidéo YouTube, McFly et Carlito, ils vont couper tous les moments de blanc, comme on dit, où ils parlent pas vraiment. Et comme ça, ça fait quelque chose de très serré, de très rythmé. Il y a un peu une overdose de ça. Après, l'essentiel, au-delà de l'image, c'est vraiment le son et ce qu'on raconte qui est important. Parce que vous pouvez avoir une image un peu moche et mal cadrée ou floue. Ça peut quand même marcher si le son est bien. Mais si vous avez une image qui est nickel en 4K ou Full HD, mais que vous avez un son qui grésille beaucoup trop, les gens regarderont pas votre vidéo. Donc il y a un petit peu, ces choses-là qui, de façon assez basique, sont assez essentielles.
Qu'est-ce qui plaît le plus dans les vidéos YouTube ?
C'est l'idée de... Je dirais de délire, enfin, avec, je mets des guillemets, mais c'est le côté, la capacité à créer un délire chez le vidéaste, c'est-à-dire de créer à la fois une complicité avec son public. Par exemple, des gens qui vont regarder la vidéo de McFly et Carlito le dimanche, il va y avoir des blagues qui sont faites, des références que eux vont comprendre et qui vont pouvoir remettre en commentaire sur d'autres réseaux sociaux, et ça crée une proximité entre eux. Donc il y a ça qui est super important, et je pense qu'il y a la... Oui, il y a la capacité à divertir, mais divertir qu'on fasse des vidéos humoristiques avec des challenges ou quoi, ou à divertir en racontant sa vie quotidienne dans un vlog, comme le fait Léna Situation, qui est une des plus grosses vedettes du YouTube jeu, on va dire.
Malgré les conditions sanitaires, on a réussi à interviewer Florian Henner, qui est venu directement au collège Georges Rouault. Il nous a parlé un peu de ses vidéos, comment être attractif, ramener du public, comment faire accrocher les gens à sa chaîne aussi. Il nous a expliqué un peu comment il s'est lancé sur YouTube.
Qu'est-ce qui vous a poussé à créer du contenu sur YouTube ?
En fait, à la base, depuis longtemps, je suis animateur radio. Et donc, je faisais mes émissions à la radio, tout se passait bien. Et puis, je me suis dit que ce serait sympa de joindre l'image au son. Et bon, alors à la télévision, j'ai jamais eu l'occasion de faire de télévision jusqu'à présent. Je me suis dit que de nos jours, on pouvait le faire par soi-même. Donc, je me suis dit, pour rigoler, je vais lancer ma chaîne YouTube. Au début, je l'ai fait que pour moi. Je me suis lancé le défi en 2016 de faire une vidéo par jour pendant toute l'année 2016. Et puis, de fil en aiguille, au bout de quelques semaines, ça a commencé à marcher un petit peu. Il y a des gens qui ont regardé, et puis quelques mois et tout. Et puis, en l'espace de 6-7 mois, j'ai eu 100 000 abonnés. Et après, j'ai continué. Ça fait 5 ans. Et voilà. Que YouTube met en avant les vidéos que les gens regardent longtemps. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de gens qui cliquent sur une vidéo et que YouTube s'aperçoit qu'en fait, ils l'ont regardé 30 secondes alors que la vidéo dure un quart d'heure, ils vont se dire cette vidéo, elle n'est pas intéressante, donc on ne va pas la suggérer aux autres. Vous savez, sur les côtés, il y a toujours des suggestions des vidéos. Donc il faut que les gens passent un bon moment, qu'ils ne s'ennuient pas, qu'ils aient l'impression que ça passe vite et qu'ils restent jusqu'au bout de la vidéo. Et c'est assez subjectif parce que des fois, on peut s'ennuyer pendant une minute et trouver la minute super longue et des fois s'éclater pendant un quart d'heure. Donc le but, c'est vraiment que il y a de l'action, que ça se passe vite, que ça s'enchaîne et qu'en même temps, on apprenne des choses, qu'on fasse rire. Ça dépend de ce qu'on cherche à faire en fait sur YouTube.
Mais on trouve que des hommes sur YouTube ou pas, Roman ?
Non, on trouve aussi beaucoup de femmes. On a justement rencontré une YouTubeuse, Leslie Lawson, qui a créé sa chaîne il y a 5 ans. Une chaîne mode, beauté et confiance en soi.
Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve dimanche à 16h pour une nouvelle vidéo. Ciao!
Alors, le message que je veux véhiculer, c'est vraiment un message qui est quand même, on va pas se mentir, plus adressé aux femmes dans un premier temps. Donc c'est un message d'acceptation, de prendre confiance en soi. C'est vrai que je trouve qu'en tant que femme noire, c'est compliqué de gérer quand on a des cheveux crépus, quand on peut recevoir des critiques. Et même en tant que femme en général, on peut avoir des problèmes de cellulite, de vergeture, etc., etc. Bref, c'est vrai que quand même dans les magazines, on est souvent ciblé en fait par des diktats, on va dire, de la société, des standards auquel tout le monde ne correspond pas forcément, et l'objectif c'était vraiment de véhiculer un message très positif montrer que non, en fait, une femme c'est pas forcément toute lisse, c'est pas forcément toute fine, c'est vraiment un message d'acceptation de soi et assez positif.
Alors, est-ce que c'est une source d'information pour vous, YouTube, une source d'information fiable tant qu'à faire?
Pas forcément. On trouve beaucoup de personnes qui mentent en cherchant à faire le buzz sur YouTube. Les fausses informations qui nous paraissent extraordinaires, on va, par exemple, sur les miniatures de vidéos, on va voir un truc qui nous choque, du coup on va cliquer dessus et à la fin on se rend compte que c'est du baratin, quoi. C'est pas vraiment ce qu'on imaginait voir.
Toi, les thèmes qui t'intéressent, c'est quoi?
Les sciences et l'histoire particulièrement. Il y a ce qu'on appelle des fun facts qui se sont passés dans l'histoire qu'on n'en parle pas forcément.
Top, fun fact. Explique-moi pour moi, c'est quoi?
Les fun facts. Ah, c'est en gros, des choses qui se sont passées et qui sont drôles.
Des petites infos insolites, comme ça que
Oui, c'est voilà. Ça, exactement. Et sur les sciences aussi, par exemple, il y a Dr. Nozman qui est principalement spécialisé dans ça, et ça m'intéresse beaucoup de regarder ses vidéos. Quand il y a des choses qui m'intriguent un peu, j'essaye un peu d'aller fouiller partout, sur Twitter, Google, même d'aller demander à des amis que je sais qu'ils ont beaucoup de connaissances. Ça m'intéresse aussi de savoir si eux aussi, de leur côté, ils ont cherché un peu.
Derrière leur écran total, les gens se régalent. La ville est à cran d'arrêt, visage pâle, c'est le carnaval. Mais où sont les enfants et les clairières d'opale dorénavant? Ah, que le cœur me fend, je me souviens mal du monde d'avant. Très mal. J'étais où et quand pour le grand final, le feu de Bengale. Derrière mon écran sans doute, mon écran total, à perdre les pédales. Je n'avais pas mes lunettes spéciales. J'étais où et quand derrière mon écran, et je disais mal. Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi. Sanglots de reptiles s'adressent sans dents. Rien à l'abri dans son palais d'argile avec tous ses descendants. Normal, mais il pleut sur la ville et on le sait, l'argile mollit. Eh oui. Alors tous les civils, vous, sanglots de reptiles aux gémonies. C'est génial! On le lynche sur la place publique. On piétine le pacte civique. Ah, tu fais moi le malin, sanglot de reptile. Maintenant que t'es plus derrière ton écran, t'as vraiment pas l'air si grand. Essaye pas de t'enfuir avec tes talonnettes à 4000 boules qui servent plus à rien maintenant. Nous aussi on peut en faire des euros sur ton dos. On jette des pièces comme sur les crocos du Vivarium. Ah, tu fais moi le mariol. Tout ça pourquoi? Parce qu'on avait punk des putains de lunettes spéciales. On les mettra jamais des
on se retrouvera sur le net. C'était Écran Total, Feu Chatterton. Et nous, tout de suite, eh ben, on est ensemble pour Interclass sur France Inter avec les élèves de 3e du collège Georges Rouault à Paris, 19e. Antoine Tchao, comment vous avez travaillé cette année tous ensemble?
Tous ensemble, on a appris à se connaître et on s'est demandé de quoi on voulait parler et à quoi on voulait réfléchir ensemble. Et il y a un sujet qui est sorti, c'était d'ailleurs, on en a parlé justement dans le petit portrait du quartier fait par Mathilde en début d'émission, c'est la question des violences policières qui est venue sur le tapis, on va dire, et vous avez eu envie de travailler sur ce sujet-là, des violences policières ou de la relation entre la population et la police.
On a demandé à parler avec Valentin Gendreau, un journaliste infiltré au sein du commissariat du 19e arrondissement.
Bonjour, c'est Interclasse dans le collège Georges Rouault.
Et on est avec France Inter.
Salam alaikum guys. Alors, je vais présenter le livre de Valentin Gendreau.
Ce livre dévoile un peu les coulisses d'une profession souvent accusée violente, raciste. Il parle tant des victimes de cette violence que des policiers.
Bah, j'ai décidé de faire cette enquête-là parce que, en fait, dans la société française, tout le monde a un avis sur la police. Vous avez un avis sur la police. Toi, t'as un avis sur la police. Et les autres personnes qui vivent en France ont un avis aussi sur la police. Et en fait, il est souvent bon. C'est-à-dire que les gens vont dire que la police, elle fait son travail, que la police, elle est parfois insultée, qu'elle manque de moyens, qu'il y a des policiers qui se suicident. Et vous avez d'autres personnes qui détestent la police. Moi, ce qui m'intéressait, en fait, en infiltrant le commissariat du 19e arrondissement, c'était de pouvoir raconter le lien qu'il pouvait y avoir entre la police et les habitants. Parce que je sais que c'est ce qu'on appelle un quartier populaire ici, c'est-à-dire que un quartier populaire, c'est un endroit où parfois le lien entre la police et les habitants, il est un peu difficile. Où les policiers aussi ont du mal à faire leur travail. Où une partie de la population est victime de sa couleur de peau, parce que les policiers pratiquent le contrôle faciès. Je voulais raconter ça au quotidien, comment ça se passe au quotidien. Donc c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans.
Est-ce que vous avez déjà assisté ou été témoin de violences policières quelque part?
Oui, j'ai été déjà témoin de violences policières. Quand j'étais policier ou journaliste infiltré dans le commissariat du 19e arrondissement, ce que je peux dire, c'est que toutes les violences policières que j'ai pu voir, ça se passe soit en garde à vue, c'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui, à un moment, vont énerver les policiers vont les sortir de leurs cellules et les frapper dans la salle de fouille. La salle de fouille, c'est juste à côté des cellules, dans le commissariat du 19e arrondissement. Ça se passe toujours de la même manière. Et les autres fois où j'ai vu des violences policières, c'était sur des migrants. Les migrants, dans le 19e arrondissement, ils sont vers la porte de la Villette. Tous les jours, les policiers vont là-bas. Et régulièrement, des migrants peuvent être tabassés dans le fourgon. Et on les relâche à Pantin. On les relâche jamais dans le 19e arrondissement, on les relâche toujours ailleurs. Je les ai pas comptés, les violences policières, mais une dizaine. En 6 mois. Ce qu'il faut voir, c'est que les policiers, c'est un métier qui est très très difficile. Il faut prendre conscience que, oui, les violences policières, elles existent. Oui, c'est quelque chose qui est récurrent, en tout cas de ce que j'ai pu voir, moi. Mais de l'autre côté, le métier de policier, bah, c'est aussi très très dur. Parce que tout ce que vous faites quand vous êtes policier, c'est violent. C'est violent parce que quand vous commencez votre journée de travail, il est 6h ou 6h30 du matin. Et parfois, on peut vous dire, bah là, vous allez dans l'appartement de quelqu'un qui vient de mourir. C'est arrivé 2 fois pour moi de me retrouver dans l'appartement de quelqu'un qui venait de mourir. C'est difficile de vivre ces choses-là. Et les policiers, souvent d'ailleurs, ne sont pas prêts à faire ces choses-là. Eux, ce qui les intéresse, c'est une intervention. L'adrénaline de l'intervention. C'est courir après des gens. Les arrêter, les interpeller.
Des policiers ressentent-ils de la désillusion face à la réalité du métier?
Oui, bien sûr que la désillusion, ils en ont, parce que en fait, le métier de policier, on le voit surtout dans les films, dans les séries, par exemple, je ne sais pas si vous regardez ça, mais Engrenage, Braco, 36 quais des Orfèvres, les films avec des super flics qui courent, qui ont des vies où ça va à 3000 tout le temps. Et en fait, un policier d'arrondissement, celui du 19e, ça va pas à 3000. Donc la désillusion, c'est le décalage qu'il y a entre ce qu'ils ont vu à la télé, l'image qu'on leur a donnée du métier de policier et ce qu'ils font tous les jours. Et ce qu'ils font tous les jours, c'est pas très marrant.
Est-ce que vous avez vu des faits choquants, très choquants?
L'effet choquant, c'est les violences policières. D'assister au tabassage d'un adolescent noir qui habite le 19e arrondissement. Il a été frappé en bas de chez lui, tabassé dans la voiture, frappé encore au commissariat. Et après, en fait, ce qu'ils ont fait, les policiers, c'est qu'ils ont écrit ce qu'on appelle un procès-verbal. Donc, ils ont écrit un texte pour raconter ce qui s'était passé. Et ils ont menti. C'est de me retrouver avec un policier du 19e qui vient de se suicider. Parce que ça, c'est arrivé quand j'y étais. Alors, je ne connaissais pas le policier, mais il s'est suicidé avec son arme de service. Donc oui, ça, c'est très choquant. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir raconter ce qui peut se passer, pourquoi ça peut arriver, des violences policières. Pourquoi est-ce que à un moment, il y a une personne en garde à vue qui va se faire frapper? Quelle nature ça peut avoir? Et de l'autre côté, pourquoi est-ce que les policiers se suicident? Parce que c'est le deuxième métier, en France où il y a le plus de suicides. Ce qui, voilà, en 2019, il y a eu 59 policiers qui se sont suicidés, dont un dans le 19e arrondissement. Il faut avoir la curiosité de savoir comment ça se passe réellement.
Alors justement, pour croiser un peu le récit de Valentin Gendreau, on a été reçu au commissariat le 19 mars pour un entretien avec Madame Adam, qui est la commissaire divisionnaire centrale et son adjoint.
Bienvenue dans ce commissariat du 19e arrondissement. Est-ce que vous habitez cet arrondissement?
Oui.
Tous?
Nous venons de rentrer au commissariat et nous allons poser des questions sur les relations police-population à Madame Adam, la commissaire divisionnaire centrale, et M. Churet, son adjoint.
Pourquoi la relation entre la police et la population, et notamment avec les jeunes, est-elle compliquée et pourquoi y a-t-il des tensions?
Grande question, très actuelle. Il faut savoir qu'on intervient, en gros, en France. Hein. Je prends toute la France, c'est une intervention de police par seconde. Mais il ne faut pas oublier le principe de base. C'est que lorsqu'il y a un contrôle de police, normalement, on fait notre contrôle, les personnes s'arrêtent, répondent à nos questions, et une fois que c'est terminé, on part, ou alors éventuellement, si c'est nécessaire, parce qu'il y a une infraction qui a été révélée, on l'emmène avec nous pour qu'elle s'explique. Un certain nombre de personnes refusent ces contrôles, ce qui crée forcément une tension, parce que nous représentons la loi, nous sommes l'émanation de la loi dans notre démocratie, et donc normalement on obéit à la loi. On a un certain nombre de personnes qui refusent d'obéir aux injonctions. Et donc, effectivement, on a ce que vous appelez, ou ce que nous appelons, nous, dans notre société, des tensions dans la relation entre le policier et les personnes qui sont contrôlées. Si le policier fait mal son travail, ben dans ce cas-là, nous en répondons. Nous sommes très contrôlés. Nous sommes très contrôlés, c'est tout à fait normal, puisque nous avons des pouvoirs qui sont exorbitants du droit commun. C'est-à-dire que on porte un uniforme, on porte une arme, on dit aux gens « stop, vous allez nous suivre, vous êtes interpellés pour telle et telle raison ». Ça veut dire qu'on a des pouvoirs plus importants que le citoyen moyen. Donc il faut qu'on en réponde, il faut qu'on les utilise à juste titre. On n'a pas le droit de les utiliser comme on veut. Donc quand il y a un doute sur la manière dont le pouvoir de police a été exercé, on en répond.
Est-ce que ça a bien répondu à vos questionnements, alors, ces deux rencontres?
Ils avaient un discours plutôt contradictoire. L'un, M. Valentin Gendreau, il nous disait que les violences policières, elles existaient, que c'était un sujet tabou, mais que ça existait réellement. Alors que Madame Adam nous disait que c'était quelque chose qui n'existait pas, que c'était des rumeurs et que ça serait sévèrement puni par la loi. Du coup, on avait un avis assez mitigé.
Alors, Akram, je te reprends, parce qu'elle n'a pas dit que ça n'existait pas. Hein. Elle a dit que c'était inacceptable, la commissaire.
Et là, vous êtes 6 avec nous dans le studio. Est-ce que parmi les autres, certains ont déjà vu des violences policières ou des violences plus généralement dans votre quartier? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes exposé?
Oui, il y a beaucoup de violences dans mon quartier. Ça se bat beaucoup. Il y a même des armes qui sont utilisées, comme des armes blanches.
Tu as vu ça déjà de tes yeux, Idriss?
Oui, mais après, on s'habitue. Ça devient même normal.
Du coup, quand tu passes, tu regardes, tu ne regardes même plus, tu fais quoi?
Je regarde et après, je continue mon chemin.
En fait, ça en devient un quotidien. Le temps qu'on n'est pas lié à ça, il nous arrivera rien du coup.
On passe sans voir, en fait, on se met des œillères, c'est ça?
Oui. Et on ne doit pas prendre parti d'un camp ou de l'autre.
Ça ne nous regarde pas, du coup, on fait comme si ça n'existait pas.
Mais est-ce qu'il faut laisser faire? Est-ce qu'il ne faut pas réagir? Est-ce qu'il ne faut pas dénoncer ces violences de... Peu importe de quel côté elles viennent, quoi.
Non, je pense que ça risque d'empirer, surtout. Vaut mieux se protéger soi-même, mais ne pas faire partie de ces violences, c'est mieux, je pense.
Alors, on dénonce les violences policières, mais on dénonce pas les violences dans le quartier, quoi.
Les violences commises dans le quartier, on peut pas vraiment savoir c'est qui, à part si on cherche.
Et pourquoi il y a autant de violences, d'après vous?
Une mauvaise entente entre deux personnes, ça peut partir en bagarre et ensuite aller très très loin.
Mais il y a une justice pour régler les conflits entre les gens. Après, c'est chacun fait justice soi-même. C'est, ça marche pas, ça.
On s'attend pas trop à dénoncer cela parce que, en fait, si on dénonce une personne, bah, tout le monde on dénonce tout le monde, en fait.
Et vous avez l'impression que dans le quartier, finalement, la normalité, c'est ça, c'est la violence, ou c'est cette violence, elle reste malgré tout exceptionnelle?
Non, c'est une normalité, je pense.
À chaque fois, c'est une embrouille entre deux quartiers différents. C'est plutôt ça qui font qu'il y a de la violence dans des quartiers.
Et ce serait pas mieux s'il y avait de la solidarité entre les quartiers?
Je pense que ce serait pas possible. Enfin, il y aura toujours une rivalité, en fait.
Et pourquoi, Ryan?
Parce que je pense qu'un quartier souhaite être le meilleur, enfin, être le meilleur comparé à d'autres. Du coup, c'est pour ça que je pense qu'il y aura toujours une rivalité et des mauvaises ententes.
Bon, bah, merci à tous et merci d'avoir partagé avec nous ces semaines de travail avec Interclass. C'était le morceau Friends du groupe Chase Atlantic, choisi par les collégiens du collège Rouault dans le 19e arrondissement. Et Claude Guibal, donc du service international, un journaliste au service international, vous avez travaillé sur quel sujet alors avec ces jeunes?
Nous, on a décidé, notre groupe, enfin c'est vous qui êtes là avec nous, je vous cite, il y a Lisa, Boubacar, Marc Owen qui sont là, il manque Kelly et Dialika qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Mais vous, ce que vous avez suggéré comme thème de recherche, c'était comment on fait pour concilier les doubles cultures. Vous, par exemple, la double culture, comment elle se manifeste au quotidien, Boubacar?
Avec la langue parlée à la maison. Et j'ai aussi une petite manie, c'est de changer de langue selon mon humeur.
C'est-à-dire?
En temps normal, je parle français chez moi. Quand je suis énervé, par exemple, contre ma sœur, je parle soninké.
Soninké, qui est une des langues que tu parles à la maison. Hein. Toi, oui. Tu parles, par exemple, Boubacar, tu parles combien de langues?
Deux, le soninké et le français chez moi.
Ce sujet donc de la double culture, on va voir ensemble qu'on en a tous. On va écouter votre reportage. Là, je vais laisser la parole à Marc Owen. Tu vas nous amener, Marc Owen, au restaurant Motsuke de Morisako.
C'est un restaurant situé dans le 14e arrondissement, à côté de la gare de Montparnasse. Il est installé dans une rue assez calme.
Et alors là-bas, vous avez rencontré le chef, c'est qui ?
Morisako. C'est un chef qui a participé à Top Chef.
Il est comment ?
Il est grand. Il fait 2 mètres à peu près, je crois. Il est plutôt souriant. Il est d'origine malienne sénégalaise.
Et donc, vous lui avez demandé à Morisako quelle place occupaient ses différentes cultures d'origine dans sa vie.
Bonjour. Je m'appelle Morisako, je suis chef du restaurant Motsuke. Pour ce restaurant, on a une identité entre l'Afrique, la France et le Japon. Ces cultures m'ont apporté énormément. Je dis qu'on est riche de plusieurs cultures. C'est jamais qu'un problème d'en avoir en plus. Sachant que je suis né en France, donc j'ai grandi avec la culture française. Mais à la maison, moi avec mes parents, on parle bambara, on parle soninké. Donc je suis riche de ces cultures en plus. Ce qu'on mangeait à la maison à l'époque, c'était vraiment ce que ma mère elle-même mangeait quand elle était chez elle. Donc ça a du mafé au tchéboudjen, je mangeais avec mes frères et sœurs, on mangeait autour du même plat, à la main. Et en même temps, quand j'étais à l'école, je mangeais avec des couverts, chacun dans son assiette. Et au final, le fait de pouvoir vivre toutes ces expériences différentes, pour moi, c'est une richesse. Plus on peut faire des choses différentes et plus on assimile de connaissances au sens large différentes, et plus on est complet pour la suite, quoi. Donc ces cultures, au final, je les ai assimilées, je les ai fait miennes parce que ce sont les miennes. Mais par la suite, j'ai su en transformer en force dans ma carrière professionnelle.
Pourquoi avez-vous choisi de mélanger ces trois cuisines au sein de votre restaurant Motsuke?
C'est au final, c'est ma construction en tant que personne que je transforme en une assiette. Mais je suis vraiment un Français qui a des origines d'Afrique et j'ai une passion pour le Japon. Donc pour moi, c'est assez naturel de ramener tout ça. Et j'avais pas envie de faire justement de compromis sur est-ce que je fais une cuisine purement française parce que c'est la cuisine que j'ai apprise, c'est une cuisine que je maîtrise, ou au contraire, est-ce que je fais une cuisine dite africaine et je dépouille de tout et je me dis on va faire que l'Afrique. Ou inversement, que le Japon. Et j'avais vraiment pas envie d'être contraint à ce choix parce que je suis assez attaché à la liberté. Le fait d'être libre, justement, c'est de pouvoir faire un peu tout ce qu'on veut sans se fixer aucune limite. Et c'est venu assez naturellement pour moi comme ça au final.
Quand vous mélangez les trois cultures, les trois cuisines, ça donne quoi ?
Donc le mélange de ces trois cuisines, pour moi, c'est quelque chose qu'on fait de deux manières différentes au restaurant généralement. Donc il y a une première manière qui est une cuisine qu'on va dire purement de revisite. Qu'on fait avec le poulet yassa, donc je prends ce plat qui est africain à la base et je m'amuse à le travailler avec d'autres éléments qui, eux, ne viennent absolument pas d'Afrique. Donc par exemple, le citron, on va le remplacer par le yuzu japonais, le sudashi. L'oignon, on va prendre de l'oignon français et ça va nous donner un poulet yassa au final. Et le riz, par exemple, on travaille un riz de Camargue ou un riz à sushi japonais. Et ça va donner un plat, en fait, qui a le goût et les marqueurs, en fait, du yassa, mais au final, qui aura une épaisseur et une profondeur de goût qui va être totalement différente parce que les produits utilisés sont des produits qui ne sont pas à la base d'Afrique. Et donc, on se retrouve avec une recette africaine, mais avec des éléments qui, eux, viennent de France ou du Japon. Ou sinon, on peut travailler autour de trois, on va dire, axes forts qui sont la technique, l'assaisonnement et le produit. Et donc, on va prendre un produit qui vient soit de France, soit d'Afrique, soit du Japon, avec une technique qui soit de cuisson, de découpe, ou autres qui viennent de ces trois territoires, et pour finir, un assaisonnement qui vient des trois territoires. Donc on a un plat à la carte qui est la sole, donc qu'on travaille, donc c'est un dérivé d'un plat ivoirien qui est le garbois poisson, qui est le poisson avec de la tieké, poisson braisé, et donc on s'amuse à travailler une sole française, avec un mode de cuisson qui vient d'Afrique de l'Ouest, ou en tout cas qui est très répandu, qui est la cuisson aux feuilles de bananier. Donc on utilise le produit français et une technique africaine. Et pour l'assaisonnement, on vient mettre du togarashi shishimi, qui est un mélange de piment japonais. Et donc là, on retrouve un produit français avec une technique africaine et un assaisonnement japonais. Et c'est vraiment comme ça que je m'amuse vraiment à balancer. Mais on n'a pas nécessairement les trois dans chaque plat. Et c'est ça qui est important, c'est que des fois, quand je fais le mafé au restaurant, c'est un mafé. Il y a pas de, on utilise juste une, on va travailler avec, on essaie de le retravailler là en ce moment avec une cacahuète française, mais ça m'a fait factuellement. Et d'autres fois, par exemple, on fait un onsen tamago qui est un plat très japonais, Et ce plat, lui, est japonais. Et c'est vraiment la balance de tout ça qui amène, en fait, au final, l'esprit qu'on retrouve dans le restaurant.
Et alors ensuite, vous avez rencontré Salia Balha. Lisa, tu peux nous la présenter ?
C'est une comédienne chanteuse de 39 ans. Elle est ancienne professeure de lettres. Ses parents sont nés en Algérie et elle a grandi avec plusieurs langues à la maison.
Un peu comme vous, toi aussi, n'est-ce pas ?
Oui.
Toi, tu parles quelle langue ?
Le mandarin et le français.
Eh bien, je m'appelle Salia Balha. J'ai grandi ici et j'ai grandi au sein d'une famille qui, en effet, nous parlait a priori pas du tout de français à la maison, mais uniquement en arabe algérois, donc qui est le dialecte arabe algérien, un des dialectes, et le kabyle, qui est une langue berbère. J'ai la chance aujourd'hui d'en pratiquer 6, le français, l'arabe algérien, le kabyle, l'anglais, l'allemand et l'italien. Et cette facilité, en réalité, c'est d'avoir cette espèce de plasticité dans la tête pour accueillir un maximum de langues. Et puis j'ai développé aussi ce goût pour les langues. C'est quelque chose qui m'a tout de suite plu petite. J'aime pas dire que j'ai des origines, en fait. C'est-à-dire qu'on en a tous. On en a tous et toutes des origines. C'est pas forcément un pays donné greffé à un autre pays. Ça peut être d'une région à l'autre. C'est un héritage aussi gastronomique, où on a... bien sûr, le couscous qui cohabite avec la blanquette. Et il y a une expression que mon père nous disait tout le temps. Ma fille, si Dieu le veut, tu seras instruite et tu instruiras.
Et puis, il y a encore quelqu'un que vous êtes allé voir. Boubacar, c'est qui ?
C'est Frédéric Cho, un acteur vietnamien de 44 ans. Il s'est fait connaître... en participant au Jamel Comedy Club. On a pu le voir dans des films tels que « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu » et « Made in China ».
On l'écoute.
Dans votre carrière, avez-vous eu des difficultés par rapport à votre double culture ?
Bien évidemment, j'ai eu des difficultés. J'essaie de me dire, chaque difficulté en fait, est une opportunité pour moi de m'améliorer, de sortir d'une zone de confort pour pouvoir en fait, vivre pleinement. L'idée est juste de sortir de sa zone de confort.
Sortir, ça fait peur.
Je vais te donner un exemple. Imaginons, en fait, tu vois, un cercle. Le centre du cercle. Plus tu te rapproches en fait de l'extérieur du cercle, tu vois, plus c'est désagréable. En revanche, si tu mets un pas à l'extérieur de ce cercle-là, tu vas te dire, tu sors de ta zone de confort et tu vas te dire, mais en fait, il se passe rien de très grave. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au fur et à mesure que tu sors de ta zone de confort, tu agrandis ta zone de confort et tu rétrécis ta zone de peur. Avant, ma zone de confort, c'était d'accepter en fait les préjugés que les gens avaient et de me dire bon bah je ne suis que ça à leurs yeux et j'avance avec ça. Sauf que j'étais extrêmement malheureux et un jour je me suis dit mais c'est impossible en fait que j'accepte qu'on me mette dans un carcan comme ça et je me suis dit ben non, c'est pas eux qui vont décider de ma vie, c'est moi qui vais décider de ma vie. Voilà. En fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que la vie elle vous apporte des opportunités et des chances de vous transcender. Il faut les sentir, ces choses-là. Et quand vous les avez, saisissez-la. Si elle a une résonance en vous, saisissez-la. Parce qu'en fait, vous pouvez arriver à ce que vous voulez, en fait, dans la vie.
Et s'il y en a un qui balance une vanne sur des Chinois, je fais quoi ?
Bah, tu souris.
Ah, je fais le Chinois, quoi, en fait.
Ah, le nouage. Suze-boule en chef, quoi.
Je me posais la question, est-ce que vous aviez conscience de cette richesse-là avant de les rencontrer, Maurice Sacco, Frédéric Cho, Salia Balha? Est-ce que vous aviez conscience que vous aviez déjà ce potentiel en vous ou pas?
Personnellement, non. C'est eux qui m'ont fait prendre conscience de cette chance que j'avais de parler aisément plusieurs langues.
Vous vous sentez comment en fait en sortant de ces reportages?
On se sent mieux parce qu'ils nous expliquent que c'est une chance et que tout le monde ne l'a pas.
Alors, il y a un autre sujet qui a été traité donc par vous, hein, les collégiens du collège Rouault, dans le 19e arrondissement de Paris. Georges Rouault, hein, il faut bien préciser que c'est un grand peintre, et d'ailleurs, on en parlera peut-être de qui était ce grand peintre, qui faisait de la peinture sociale, justement. Donc c'est intéressant, le travail qu'on fait dans ce collège Georges Rouault. Alors vous avez voulu travailler sur la dépigmentation de la peau. Alors pourquoi ?
C'est un sujet assez tabou dans notre société, même s'il y a beaucoup de personnes qui le font.
Même par exemple, lorsque on faisait nos recherches, ça a été assez difficile de trouver des articles de grands journaux, etc.
C'est pour ça que c'était important d'en parler, car pas beaucoup de monde savent ce que c'est.
Alors, comment ça s'est passé, ce reportage ? C'est Jeanne Meilleur, hein, de Radio France aussi, qui vous a accompagné.
Aucune des personnes que nous avons contactées pour qu'elles nous parlent de leur pratique de la dépigmentation ne nous a répondu.
Face à ce silence, nous nous sommes rendus à Château Rouge, un quartier parisien où vivent beaucoup de personnes d'origine africaine, pour interroger les passants et les vendeuses à la sauvette qui proposent des produits éclaircissants.
Il y a des produits chimiques et je sais pas bien pour la peau. Ça peut donner le cancer, tout ça aussi. Hein.
C'est un sujet qui inquiète beaucoup en ce moment. Parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup d'amis, des filles issues de l'immigration qui se dépigmentent la peau. Pour moi, le standard de la blancheur qui est voilà, un critère de beauté ultime en Afrique, moi, je suis vraiment contre. Parce que déjà, quand tu te dépigmentes la peau, t'as plein de taches sur le corps, c'est moche. Je vois mes copines quand elles se déshabillent, tout ce qui est genre articulation, les doigts, les genoux. C'est pas beau, c'est même pas uniforme. Donc je leur demande d'arrêter parce que moi je trouve pas ça beau. C'est ancré dans leur cervelle quoi. Le critère de la beauté, c'est la blancheur.
Faites attention, dans ce quartier, ce sujet est vraiment délicat. Je comprends, vous faites une étude là-dessus, mais... Je vous conseille de faire très 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 attention.
On a le droit, on est satisfait, on est content de le faire. Merci, ciao.
C'est quoi les raisons pourquoi vous le faites? C'est pour plaire aux hommes?
Non, c'est pas pour plaire aux hommes. On le fait pour plaisir. Pour notre jolibilité. Voilà. Comme vous, les blancs ils partent pour aller bronzer leur peau, pourquoi? On leur pose quelques questions. Rien du tout. Comme nous aussi. On pose aucune question. Bon, je m'arrête là.
Ces produits, le célèbre Carolite, mais aussi HT26, Fair & Lovely et bientôt encore, sont-ils dangereux pour la santé? Nous avons rencontré Nathalie Migan, docteur en pharmacie et cofondatrice d'Ewa Ethnique, une association qui lutte contre la dépigmentation artificielle de la peau.
Ces produits entraînent des conséquences qui sont variées. Donc on va retrouver de l'eczéma, on va retrouver des infections aussi parce que la peau devient de plus en plus fine et on attaque vraiment les cellules qui protègent la peau à la base. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve souvent des mycoses de la peau. Ces personnes ont la peau qui pourrit en fait parce qu'elles sont attaquées vraiment par des bactéries, des allergènes, etc. Sur le long terme, on retrouve des pathologies comme le diabète, l'hypertension artérielle, insuffisance rénale, parce que les produits pénètrent dans le sang et entraînent un déséquilibre dans la régulation de plusieurs organes, ce qui cause ces pathologies-là.
Malgré la dangerosité des produits éclaircissants, beaucoup de personnes, des hommes, mais surtout des femmes, se dépigmentent la peau pour paraître plus clair. D'autant plus qu'Internet facilite la vente de ces produits, pourtant interdits.
Dans le 18e arrondissement de Paris, pas très loin du quartier de Château Rouge, l'association Esprit d'Ébène mène une campagne de sensibilisation au danger de la dépigmentation artificielle de la peau. Stop dépigmentation. C'est dans les locaux de l'association que EOF Sissoko nous a parlé des racines de la dépigmentation volontaire.
Alors historiquement, on peut installer en tout cas la colonisation et l'esclavage dans la construction du colorisme, qui est la raison de la dépigmentation, c'est-à-dire que au sein d'une communauté, il va y avoir une stratification sociale, donc c'est-à-dire que la société va être découpée en différents étages et cette découpe de la société va être basée sur la couleur de peau. Donc du coup, dans un contexte de rapport de force et de domination comme pendant l'esclavage et pendant la colonisation, les personnes les plus claires étaient au pouvoir, donc au sommet de cette hiérarchie sociale, et en bas étaient les personnes dominées, donc du coup les personnes les plus foncées. Et c'est comme ça que se véhicule l'idée que être plus clair, c'est avoir plus de pouvoir, avoir une meilleure place dans la société, et être foncé, au contraire, c'est être en bas de la société. Et c'est dans les manufactures de textiles que les ouvriers se sont rendus compte que l'utilisation de l'hydroquinone pour traiter les vêtements permettait de blanchir la peau, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient les mains plus claires. Et du coup, c'est de là qu'est partie un peu l'isolation de l'hydroquinone et son utilisation en tant que produit cosmétique dans les produits éclaircissants.
Il n'y a pas très très longtemps, il y a une jeune fille qui s'est présentée ici et elle a commencé à s'éclaircir la peau à 14 ans. Donc ça faisait 11 ans qu'elle se dépigmentait la peau et elle a arrêté très 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 récemment. Et franchement, c'était quelque chose de très très émouvant. Il y a même des larmes qui en sont sorties parce que les personnes se mettent à nu. Comme je le disais, elles sont très très fragiles lorsqu'elles sont dans cette période-là. Et c'était une forme de mise à nu. Du coup, j'apprends qu'elle se sent mieux dans sa peau, qu'elle explique ouvertement maintenant, notamment à travers Snapchat, en faisant des stories. Elle explique qu'elle a arrêté de se dépigmenter la peau et elle explique un peu maintenant comment elle adopte une nouvelle routine. Elle m'a dit être suivie par un dermatologue c'est quelque chose de gratifiant pour nous de savoir que les personnes avec lesquelles on a parlé, elles sont vraiment déterminées à arrêter et se disent bah, « Ok, je vais me donner les moyens et je sais que, en tout cas, il y a les bénévoles de l'association Esprit d'Ébène qui sont là pour me soutenir. »
Alors, il est quand même assez édifiant ce reportage. Qu'est-ce que vous en avez retiré, vous ? Qu'est-ce que vous avez appris ?
Que la dépigmentation artificielle de la peau, c'est une addiction. Et on sait que maintenant, que si on connaît des gens dans notre entourage qui se dépigmentent la peau, maintenant, on peut leur avertir et on peut leur dire que c'est pas bon pour la santé. Être blanc, bah, c'est un idéal de beauté. Pendant longtemps, dans la société, dans les médias, on voyait que des personnes blanches qui s'exprimaient. Je parle de la télé aussi. Bah, à la radio, on n'entendait pas des personnes de couleur qui participaient. Puis après, dans les magazines, dans les journaux, on a toujours vu des personnes blanches. Donc je pense que au fond de nous, bah, on a envie de devenir comme eux.
Mais c'est le cas, toi, par exemple ?
Je sais que moi, quand j'étais petite, je voulais avoir les cheveux lisses. Je voulais être blanche, mais plus maintenant, parce que j'ai pris confiance en moi. L'idéal à télé, c'était une fille blanche, cheveux lisses et mince.
Et aujourd'hui, ça a changé ?
Un peu.
Pas assez ?
Non, pas assez. Par exemple, quand on était petit, quand on allait regarder la télé, bah, c'était Claire Chazal qui faisait le TF1. C'était elle qui faisait le journal, mais maintenant, bah, par exemple, dans M6, c'est une présentatrice noire, j'ai oublié son nom, mais ça fait du bien de voir plus de personnes de différentes origines à la télé, parce que la télé, c'est un média que tout le monde regarde.
Aussi, avec les réseaux sociaux, les communautés s'entraident de plus en plus, et on a beaucoup plus de représentations sur les réseaux sociaux qu'à la télé par avant, parce que la télé, c'est un monde... assez fermé et c'est pas vraiment la vraie vie, je trouve.
C'est plus facile aussi d'être blanc. Par exemple, quand on marche devant des policiers, il y en a qui ont peur. Quand on va dans les magasins et qu'ils ont peur qu'on vole ou des trucs comme ça, je sais que personnellement, moi, je l'ai vécu beaucoup de fois.
Et ça, tu le mets en rapport avec la couleur de ta peau ?
Oui.
C'est des stéréotypes qui nous suivent.
Par exemple, quand on est dans des magasins, que les vigiles nous suivent, nous, et pourquoi nous, on volerait et pas les autres ?
Et du coup, est-ce que vous, par exemple, notamment Garance, là, tu disais que tu as pu vouloir, quand tu étais petite, ressembler à une femme blanche, stéréotypée, comme tu voyais à la télévision, etc. Est-ce que ça vous est passé par la tête un jour de vouloir blanchir votre peau, lisser vos cheveux, tout ça ?
Par exemple, moi, je suis indienne et souvent à la télé en Inde, bah, y a énormément de pubs pour Farine Loli qui est une crème blanchissante et elle est pas, c'est pas illégal en Inde. Et aussi, je voyais mes cousines qui utilisaient ce produit et depuis petite, bah, je voyais ça, j'ai grandi avec ça. Puis après, en fait, je crois que c'est en plus, les cheveux bouclés, c'était compliqué à maintenir. Je voyais les personnes avec les cheveux lisses, c'était tout doux, alors que moi, bah, c'était frisé, c'était plus facile à dénouer, c'était plus facile à coiffer aussi. Donc, je pense que quand j'étais petite, il y avait une sorte d'admiration pour les personnes comme ça. Puis après, je crois que j'ai grandi et je me suis réalisée que,
que t'étais belle comme tu es.
Ouais. Comme elle a dit, c'était difficile. Que tous les week-ends, on devait laver nos cheveux, démêler, ou qu'il y a toujours des questions, par exemple, où qu'on met des mèches. Est-ce que c'est tes vrais cheveux, qu'on est en afro tu serais mieux les cheveux lisses, pourquoi tu ne les lisses pas, tout ça.
Et il y a aussi le problème que dans notre société, on trouve les coiffures afro non professionnelles au travail.
Eh ben merci Leïla Marie, Rami, Toulé, Garance, Eddy et Elodie. Pour cette enquête que vous avez menée pour Interclasse. Et on va écouter un peu de musique.
Et pense plus à lui, tu te fais du mal, s'il te plaît, n'y pense plus. Il a souillé ton âme, toi tu t'es battu. Ton cœur est plus précieux que de l'or. Ne pense plus à lui, pour un homme tu ne veux plus voir le jour. Des milliers d'entre eux rêvent de te faire l'amour. Ton corps est aussi beau que l'or, que l'or. Encore tu pleures pour une histoire de
ça toujours. Donc on va parler. Tu t'es plié en quatre pour un salaud. Et pour vous tu t'es donné sans compter. Lui il a planté le couteau. Et il a regardé ton sang couler. Et depuis tu ne sors plus. J'ai demandé, on m'a dit tu ne manges plus. Yeah. Mon avis tu voulais. Oh. Ne pense plus à lui. Tu fais du mal s'il te plaît, n'y pense plus. Il a souillé ton âme, toi tu t'es battu. Ton cœur est plus précieux que de l'or. Ne pense plus à lui. Pour un homme tu ne veux plus voir. Des milliers d'entre eux rêvent de te faire l'amour. Ton corps est aussi beau que l'or. Que l'or. Petit-fils de yeah, yeah. Je n'aurais jamais pensé qu'une femme comme toi puisse tomber aussi bas. Tu l'aimais, lui il t'a fait payer. Aujourd'hui tu le maudis. Moi c'est toi que je maudis. Et tu vas comprendre pourquoi. Personne ne t'a forcé à rester. Non, non, personne ne t'a forcé à rester. Tu étais tellement fier de vous, fier de vous. Aucun homme ne pourra te faire tomber. Non, non, aucun homme ne pourra te faire tomber. T'es la fille de ta mère, le bijou de ton père. Ne pense plus à lui.
Il est qui?
Il est qui?
Pour te faire pleurer.
Ne pense plus à lui.
Il est qui?
Il est qui?
Pour te faire pleurer.
N'y pense plus, c'est Taïk. Taïk, c'est le choix des élèves du collège Georges Rouault. Puis on va pas tout à fait se quitter comme ça parce qu'on a deux bonus et c'est deux chanteuses qui sont parmi nous. Garance, Leïla Marie. Leïla Marie, chanter, c'est important?
Oui, pour nous c'est important de chanter parce que ça nous permet de nous exprimer et de penser à autre chose.
At a low way of the fever, I cause three hearted believer. I turn my head in the air, say something. He said, if you don't come and a little closer, wonder, 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 where we go.
Could have asked me why I broke your heart. You could have told me that you fell apart. But you walked past me like I wasn't there. And just pretended like you didn't care.